Bonjour à nouveau, heureux de vous revoir ce matin, heureux d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Encore une fois, je vous remercie pour l'invitation d'hier, ça a été pour moi une joie. C'est toujours un privilège d'être porte-parole du Seigneur, d'apporter l'enseignement de la parole de Dieu. Et pour vous aussi, cela démontrait un désir justement de réfléchir sur les enjeux auxquels nous sommes confrontés en tant que peuple de Dieu, en tant que société, de réfléchir pour pouvoir ensuite être une influence sanctifiante, n'est-ce pas, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos lieux de travail. Alors, je vois dans cela un désir de la part de cette communauté d'être réellement sel et lumière dans ce monde. Amen. Excellent, excellent. Mais ce matin, j'aimerais continuer sur ce thème, non pas en vous sortant un sujet aussi complexe comme l'aide médicale à mourir ou le transgenrisme, la dysphorie de genre, mais de voir ce que la parole nous enseigne pour être justement sel et lumière, mais dans des façons qui sont accessibles, abordables et possibles pour chacun d'entre nous ici ce matin. Des façons qui vont rendre la parole de Dieu, l'Évangile, la foi chrétienne attrayante et hautement pertinente, là où le Seigneur nous place. Donc, comment peut-on être une source de bénédiction? Comment devons-nous nous comporter dans une société où, on l'a vu hier, la confusion augmente de jour en jour, n'est-ce pas? Les ténèbres semblent prendre le dessus. Eh bien, je crois que nous pouvons trouver des pistes de réflexion, des pistes de réponse dans une courte lettre que le prophète Jérémie a écrite en 596 avant Jésus-Christ aux Israélites qui venaient d'être conduits à Babylone comme exilés. Ces exilés juifs ne savaient pas trop comment se comporter. Imaginez, vous êtes déraciné de votre ville, de votre province et de votre pays contre votre volonté. Vous êtes amené dans une autre région du monde où on a une langue différente, une culture différente, des dieux différents. Et vous n'avez plus la liberté que vous aviez avant. Et vous aspirez naturellement à retourner chez vous. Et voilà que de faux prophètes s'élèvent et leur annonce, pas de problème, frères et sœurs. Dans 2 ans, vous serez chez vous. Alors, que devaient faire les Israélites durant ces soi-disant 2 années d'attente? Est-ce qu'ils devaient mettre leur vie sur pause en attendant la délivrance de Dieu? Est-ce qu'ils devaient plutôt créer des communautés fermées, repliées sur elles-mêmes et considérer le monde environnant comme hostile, corrompu, mauvais et cultiver une mentalité de forteresse? Eh bien, je crois que cette lettre que Dieu a dictée à Jérémie a beaucoup à nous enseigner sur la manière dont Dieu s'attend à ce que nous nous comportions, nous ici, disciples de Jésus-Christ, aujourd'hui ici, à Edmundston, dans notre ville, dans notre quartier, dans nos lieux de travail. Alors, je vous invite à prendre avec moi ce texte qui se trouve dans Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 29, et nous allons lire les versets 1 à 7. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons vraiment remettre ces moments devant le Seigneur à nouveau dans la prière. Alors, prions. Encore une fois, Seigneur, nous avons la joie, le privilège, la liberté, l'honneur de nous laisser renouveler dans notre intelligence par ta parole vivante, puissante, agissante dans la vie de ceux qui se confient en toi. Nous te remercions pour cette parole qui est là, même si elle a été écrite il y a plus de 2600 ans, son message demeure toujours vrai, toujours agissant, toujours puissant. Alors, par cette parole et par ton esprit qui habite en nous, merci de nous renouveler ce matin. Merci de nous instruire dans tes voies. Merci de nous fortifier pour marcher dans l'obéissance, là où tu nous envoies, jour après jour. Gloire à toi. Amen. Lisons ensemble Jérémie, chapitre 29, les versets 1 à 7. Voici donc le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, à ceux que Nebuchadnezzar avait emmenés en exil de Jérusalem à Babylone. C'était après le départ de Jérusalem du roi Jéconia, de la reine, des eunuques, des chefs de Juda et de Jérusalem, des charpentiers et des serruriers. Il a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkija, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle disait ceci. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Et remarquez ce verset 7. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Amen. Ici s'arrête la lecture de la parole pour nous ce matin. Alors, nous avons ici des directives que Dieu donne à son prophète Jérémie pour ses exilés qui se retrouvent dans la ville la plus puissante de son époque, la puissance mondiale d'alors, Babylone. Et il leur donne des directives qui sont claires et qui concernent à la fois leur vie familiale, mais aussi leur vie sociopolitique et même socio-économique. Que leur dit-il ici? Eh bien, en ce qui concerne leur propre famille, ces directives sont claires. Il les encourage à faire trois choses, toutes simples et à la portée de tous. Construire des maisons et les habiter, planter des jardins, en manger des fruits, et avoir des enfants et plus tard les marier, afin que le cycle de la vie se poursuive là où ils se trouvent, là où le Seigneur les a envoyés, afin de se donner un avenir. Intéressant que dans sa prière sacerdotale, en Jean 17, Jésus dit ceci de nous, ses disciples, au Père. Verset 14, « Je leur ai donné ta parole, dit Jésus au Père, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. » Je ne sais pas si on fait ça ici, au Nouveau-Brunswick, au Québec, quand quelqu'un te dit « t'es pas du monde », c'est une insulte. Mais ils ont bien raison, on n'est pas du monde. On est d'accord? Mais, ils ne sont pas du monde, comme moi, dit Jésus, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Ça, c'est important de se le rappeler. Mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Alors, quoique nous ne soyons pas du monde, cette vérité ressort clairement dans ce texte de Jésus, nous demeurons malgré tout dans ce monde. Plus encore, Christ nous y envoie. Il ne veut pas qu'on reste isolé dans nos foyers ou dans nos communautés. Il nous envoie dans ce monde parce que nous avons une mission à y accomplir. Faire connaître son nom, briller pour lui, bénir son prochain, aimer son prochain et être une influence transformatrice dans ce monde. Alors, ces exilés à Babylone, tout comme nous, sont encouragés à vivre pleinement ici-bas leur vie et à établir des foyers solides, avoir des enfants et en prendre soin. Et c'est déjà toute une tâche, une noble tâche, une tâche nécessaire. J'ai la joie d'être père de 3 enfants et depuis bientôt 5 ans, grand-papa de 4 petits-enfants. Quelle joie, n'est-ce pas, de voir la vie qui se poursuit, d'avoir cette puissance, ce privilège de donner la vie, mais pas juste la créer, la nourrir, en prendre soin, la voir grandir, s'épanouir, trouver sa place et avoir une influence, on l'espère, sanctifiante dans ce monde. Et les parents qui refusent ces tâches, la Bible nous dit, seront jugés sévèrement. Nous avons, parmi nos toutes premières responsabilités, prendre soin de nos bien-aimés, de nos familles. Ces paroles de Paul sont très dures lorsqu'il écrit à 1 Timothée 5:8 « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. » Prendre soin de mon couple, aimer ma femme, prendre soin de mes enfants, aimer mes enfants, les conduire dans la parole, dans la vérité, les aider à devenir des adultes matures, engagés, serviables, respectueux. Toutes ces choses sont des choses fondamentales pour bénir notre monde et notre communauté. Et donc, on doit garder nos couples sains. On doit travailler pour avoir des familles en santé. Notre premier appel se vit là. Et c'est là que notre influence est la plus grande aussi. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas laisser des tablettes ou des cellulaires prendre soin de nos enfants. On ne peut pas se décharger sur l'Église ou sur l'école ou sur la société. La responsabilité première d'éduquer ses enfants revient aux parents. Et le Seigneur nous donne des outils, nous équipe, nous montre comment le faire. J'aime bien la manière dont l'apôtre Paul présente son ministère auprès d'une des toutes premières églises qu'il a fondées, une église où on voit qu'il avait un cœur particulier pour elle, non pas Philippiens, comme je mentionnais hier, qui est mon épître favorite, mais Thessalonique. Dans sa première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 11, il parle de son ministère parmi eux, et voici ce qu'il dit. Il dit, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Paul est venu avec un cœur de père pour bénir ces personnes qui l'ont conduit à la foi, ses enfants spirituels. Et voici ce qu'il a fait en tant que père, ou comment il décrit en quelque sorte le rôle de père. « Nous vous avons encouragé. » Nos enfants ont besoin d'être encouragés. « Nous vous avons encouragé, nous vous avons réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu. » qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est comme ça que Paul voyait ce rôle, le rôle de père. Encourager, réconforter, supplier de marcher d'une manière digne de Dieu. Notre tâche de parent est noble et grande. Et notre impact, notre influence l'est aussi. Mais notre tâche, notre appel ne se limite pas à cela. Si c'était le cas, on pourrait justifier une mentalité de repli, d'isolement par rapport au monde, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Sa lettre aux exilés va plus loin encore. Il veut, imaginez, Dieu demande à travers son prophète Jérémie que ces Israélites, amenés en exil de force par le roi de Babylone, changent d'attitude et de comportement vis-à-vis Babylone. Pensez à ça un instant, là. Babylone. Qu'est-ce qu'il leur demande? Il leur demande de faire 2 choses pour elle. Vous avez noté au verset 7? Rechercher son bien et prier pour elle. C'est assez particulier, hein? Babylone, vraiment? Et quelle raison donne-t-il pour agir ainsi? La fin du verset 7 en donne l'explication. Parce que votre bonheur, votre bien-être dépend du sien. Quand on y pense, c'est logique. Hein? Si je grandis dans une communauté où il y a la violence, l'injustice, le désordre, ça impacte ma famille, ça impacte ma vie. Je subis aussi la dégradation de mon quartier. Mais si je veille à son bien, si je travaille à son bien, si je prie pour son bien, c'est pas seulement la communauté qui en bénéficie, c'est moi aussi. Et donc, ces deux choses sont importantes pour Edmundston. On doit rechercher le bien de notre ville et prier pour elle. L'avenir des exilés israélites, leur bien-être, était inextricablement lié à leur nouvelle communauté. Et dans sa lettre, Jérémie va informer les Israélites déportés qu'ils vont rester à Babylone, non pas 2 ans, comme l'annonçaient les faux prophètes, mais combien? 70 ans. 70 ans. Autrement dit, pour la grande majorité d'entre eux, ils allaient passer le reste de leur existence à Babylone. Ils devaient donc s'y installer et chercher à y prospérer. Leur présence devait faire une différence dans leur milieu, dans leur communauté. Leur vie devait être une source de bénédiction pour tout le monde. Et en bénissant leur milieu de vie, ils allaient eux-mêmes en retirer des bienfaits. C'est intéressant de voir ce discours un peu d'exilé, d'étranger, se retrouve aussi dans le Nouveau Testament pour parler de nous, disciples de Jésus-Christ, présents dans ce monde. Voici comment Pierre s'adresse à ses frères en Christ au début de sa première lettre. Il s'adresse à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, des régions qui sont aujourd'hui dans la Turquie moderne. Puis voici ce qu'il dit au chapitre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens, vous notez où ils se trouvent, hein? Au milieu des païens, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Quelques 700 quelques années plus tard, Pierre tient essentiellement le même discours que Jérémie a tenu pour ses exilés à Babylone. Voici comment Timothy Keller, un pasteur new-yorkais récemment décédé, explique un peu cette chose dans un excellent ouvrage intitulé « Une église centrée sur l'Évangile ». Il écrit ceci. « Pendant l'exil, Israël n'existait plus sous la forme d'une nation-État. Israël était plutôt une communauté contre-culturelle existant au sein d'autres nations. À plusieurs égards, c'est aussi le cas de l'Église », écrit-il. Ce modèle de l'exil nous aide à comprendre la relation entre l'Église et la ville à l'époque du Nouveau Testament et jusqu'à aujourd'hui. Il poursuit en disant ceci, « Ils étaient attachés à un autre pays qu'à celui dans lequel ils vivaient. Ils vivaient dans leur pays de résidence et participaient pleinement à la vie de ce pays. Autrement dit, les résidents étrangers ne vivaient ni comme les Autochtones, ni comme des touristes. » Ils n'étaient pas enracinés de manière permanente dans leur lieu de vie, mais n'étaient pas non plus de simples voyageurs ne faisant que passer. Intéressant de voir comment il décrit cette vie dans ce monde, cette vie de croyants, de disciples dans ce monde. Il parle de cette tension que nous vivons, à la fois en tant que citoyens du royaume des cieux, mais aussi citoyen de ce monde. Et cette tension est utile, elle est bonne, parce qu'elle nous garde, nous préserve de deux comportements nocifs. L'assimilation totale, où je vis comme les gens du coin et ma vie ne se distingue nullement de celle des autres dans ses valeurs, dans ses priorités, dans son éthique, dans sa moralité, ce qui devient toxique et je n'ai aucun témoignage. Mais de même, ça me préserve d'un autre qui est celui de l'isolement. Où je ne cherche à avoir aucune influence et je me retire et je cesse de briller pour Jésus-Christ. Je cesse de bénir au nom de Jésus-Christ. Deux tensions, deux comportements extrêmes à refuser, à éviter, l'isolement ou l'assimilation. Et je ne sais pas ici au Nouveau-Brunswick, mais je sais qu'au Québec, c'est un courant qui peut être fort. Si on regarde ces deux courants-là, les deux dangers se retrouvent dans l'Église de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il y a des chrétiens, on les voit agir, puis on ne saurait pas carrément qu'ils sont chrétiens. Vraiment, on ne saurait pas. Ou d'autres, on ne le sait pas parce qu'on ne les voit pas, puis ils sont complètement coupés, ils n'ont aucune interaction. Une mentalité de forteresse et zéro impact. Et je veux vous avouer que ça m'arrive parfois de me sentir de ce côté-là aussi. Je vous ai cité hier ce texte de Philippiens 1, 23. « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, dit l'apôtre Paul dans sa prison à Rome, parce que cela est de loin supérieur à tout le reste. Et oui, j'ai hâte d'être réuni devant mon Seigneur. » De voir mon Seigneur face à face. Oh, waouh, ça va être glorieux. Mais le Seigneur nous a donné une mission. Et c'est lui qui détermine les temps. Et c'est à nous d'être fidèles jusqu'au dernier souffle. Je poursuis une réflexion de Timothy Keller. Il dit ceci. Le plus frappant, c'est que Dieu appellent ces exilés à se mettre au service de la ville. Ils doivent utiliser leurs ressources pour le bien commun. De Genèse 11 à l'Apocalypse, Babylone est l'incarnation d'une civilisation bâtie sur l'égoïsme, l'orgueil et la violence, la ville ultime des humains. Les valeurs de cette ville contrastent de manière absolue avec celles de la cité de Dieu. Pourtant, ici, les habitants de la cité de Dieu sont appelés à devenir les meilleurs résidents possibles de cette ville des hommes. Dieu n'ordonne pas aux Juifs exilés d'attaquer, de mépriser ou de fuir la ville, mais de rechercher sa paix, d'aimer la ville tout en s'y multipliant. Une réflexion qui nous amène à percevoir notre place dans ce monde d'une toute autre manière, n'est-ce pas? Et notre rôle ici, là où le Seigneur nous a plantés pour un temps, à Edmundston. Keller conclut ainsi, « Toutes les villes du monde, toutes les villes du monde deviennent les cibles de la mission de Dieu, qu'il s'agisse de centres commerciaux comme Corinthe, de centres intellectuels comme Athènes, de centres religieux comme Éphèse ou d'une capitale politique et militaire comme Rome. » Toutes les villes deviennent la cible de la mission du peuple de Dieu. Et lorsqu'on lit les Écritures et lorsqu'on voit l'Ancien Testament, on trouve plein d'exemples d'hommes, de femmes utilisés par le Seigneur qui ont béni leur pays d'adoption. Pensons à Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, qui se retrouve esclave dans la maison de Potiphar en Égypte. Autre culture, autre langue, autre Dieu. Il est resté fidèle à son Dieu et il a été une source de bénédiction d'abord pour la maison de Potiphar, que Dieu a béni à cause de Joseph. Ensuite, faussement accusé, Joseph se retrouve en prison et Dieu le bénit. Imaginez aller en prison et être béni. Dieu bénit Joseph dans la prison Et plus tard, on assiste à la plus grande promotion de toute la Bible, un esclave étranger emprisonné qui se retrouve du jour au lendemain premier ministre d'Égypte et qui va influencer des millions de vies au cours des prochaines décennies. Remarquable, n'est-ce pas? Et dans tout cela, il était fidèle à son Dieu. Il a honoré son Dieu devant Potiphar, devant Pharaon et plus tard devant sa famille. On peut parler plus tard de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego à Babylone, qui ont atteint les plus grandes sphères du pouvoir politique, d'influence, et qui sont restés fidèles à leur Dieu malgré les pressions énormes et qui ont brillé pour le Seigneur. On peut penser à Mardoché et Esther à Suse plus tard, ou encore à Néhémie aussi à Suse, des croyants qui n'ont pas fait de compromis, qui ont brillé là où ils étaient, qui ont béni leur nation ou leur pays d'adoption. Mais lorsqu'on y pense un petit peu plus, on réalise que l'exemple vient de très haut. Ultimement, l'exemple nous vient du Seigneur Jésus, qui a quitté le ciel pour venir vivre parmi nous, pour nous bénir aussi. Il a transformé l'histoire de l'humanité. Il a transformé le cours de notre histoire à nous. Et son règne s'affermit de jour en jour à travers ses disciples qui le vivent et qui le proclament autour d'eux. Jésus nous envoie dans ce monde pour être des témoins de sa grâce, des ambassadeurs en son nom, pour agir en tant que sel et lumière, autrement dit, faire une différence, préserver, diriger, apporter la vérité, la pureté. C'est ce qu'il avait demandé aux Israélites amenés en captivité à Babylone. Il le demande à nouveau à son peuple qui est dispersé partout dans le monde. Recherchez le bien de votre ville. Priez pour elle. Eh bien, ce matin, on veut répondre à la question « À quoi cela peut ressembler? Comment puis-je m'y prendre pour rechercher la prospérité, le bien-être, le shalom d'Edmundston, de ma province, de mon pays? » Eh bien, je reviens à ce que je disais au tout départ, au tout début. Ça commence dans ma famille, dans mon foyer. D'exercer une influence durable là où je passe le gros de ma vie. En ayant des enfants, en les éduquant selon les valeurs du royaume. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point l'identité religieuse de ces Israélites était extrêmement forte. Les Israélites avaient réussi, en suivant la loi de Moïse, à inculquer ces valeurs à leurs enfants de génération en génération. J'ai la misère à comprendre qu'un Joseph, qui à l'âge de 17 ans se trouve trahi par ses frères, vendu comme esclave, se retrouve dans une culture, une langue étrangère, entouré de dieux étrangers, a réussi à demeurer fidèle au Dieu de ses pères. C'est quelque chose. Hein? Un Daniel, malgré les pressions énormes, les menaces, la jalousie, les Israélites ont su communiquer ces choses à leurs enfants. Est-ce que les chrétiens sont aussi capables, aussi compétents? Je dois vous avouer qu'on a du travail à faire. Je mentionnais hier que l'Alliance évangélique du Canada a fait une enquête, une étude nationale qui est parue il y a un an sur la transmission de la foi en milieu familial. Plusieurs parents vivent dans un monde un petit peu trop joyeux, en quelque sorte. Ils pensent que le peu qui est fait va avoir des impacts profonds dans leur vie. Mais on réalise qu'il n'y a pas grand-chose finalement qui est fait. On pense qu'ils vont absorber ça naturellement, mais il n'y a pas une discipline, il n'y a pas un effort continu, intentionnel pour communiquer l'Évangile et pour le refléter dans sa propre vie auprès de ses enfants. On doit absolument veiller sur la façon dont on communique l'Évangile, comment on vit et on reflète Christ d'abord et avant tout chez nos enfants. Il y a un travail à faire. Bien des ressources existent, heureusement, pour cela aussi. On doit donc, nos familles, nos foyers doivent être des petites églises où Christ est adoré et Christ est servi. Donc, en maintenant une vie familiale saine, centrée sur Christ, mais aussi en maintenant une vie spirituelle et ecclésiale dynamique. L'Église n'est pas une option. Laissez-moi le dire comme ça. L'Église n'est pas une option, un choix parmi différents choix pour décider qu'est-ce que je veux comme disciple de Jésus-Christ. Regardez ce que Paul a fait tout au travers de ses voyages missionnaires. Il a fait deux choses. Avant, lorsqu'il arrivait dans une ville et avant de la quitter, il fallait que deux choses se réalisent. Un, il a prêché l'Évangile et conduit des individus à la foi au Seigneur, mais il ne s'est pas arrêté là. Deuxièmement, il a rassemblé ces individus en communauté de foi pour un témoignage plus brillant, un impact plus grand, un encouragement mutuel. L'Église, en quelque sorte, est une deuxième famille. On a une famille biologique, merci Seigneur, mais nous sommes une famille spirituelle. Et là aussi, on doit veiller les uns sur les autres, on doit s'encourager les uns les autres, on doit s'aimer les uns les autres. On doit être patient les uns envers les autres. L'Église est un instrument essentiel entre les mains de Dieu pour accomplir la mission de Christ sur terre. Et donc, chacun d'entre vous, vous êtes un membre de ce corps. Et j'espère que ce membre grandit en santé et contribue au bien-être de l'ensemble du corps de Christ. Parce que le Seigneur a équipé chacun d'entre nous pour le servir. Il n'y a aucun sous-doué dans l'Église de Jésus-Christ. Aucun. On a quelque chose de beau à apporter et à contribuer. Et donc, vous avez compris à travers cette description-là que lorsque je parle de vie ecclésiale, je ne parle pas juste de le dimanche matin. Cette vie-là se vit aussi en semaine de différentes manières, dans ses échanges, dans ses conversations, dans ses ministères qui sont accomplis, non seulement pour l'Église, mais aussi pour la communauté où on met ses dons spirituels, ses talents naturels au service de son prochain. Quel est le portrait que le livre des Actes nous présente de l'Église primitive, l'Église à ses tout débuts? En Actes 2, 42, il persévérait. Déjà, le terme implique un effort. Vous avez saisi ça, hein? Ça ne vient pas naturellement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, donc c'était très public, très visible, mais aussi ils rompaient le pain dans les maisons. Il louait Dieu et avait la faveur du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. Et donc, à travers cette vie d'Église, il y a un témoignage qui est apporté, mais aussi en étant dans le monde, le Seigneur donne l'opportunité, les opportunités de communiquer cette bonne nouvelle. Et donc, on doit être sensible à ces occasions de témoignage que le Seigneur prépare pour nous. C'est ce que Joseph a fait, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Néhémie, etc. Une vie communautaire saine, nourrie et soutenue par l'Esprit, j'en suis convaincu, va exercer un attrait sur le monde. Peut-être créer une sainte jalousie. J'aimerais ça avoir ce que ces gens ont. Or, j'aimerais ça vivre ces relations d'amour, de confiance, d'encouragement, de bénédiction mutuelle. Le monde a besoin de voir une Église en santé, engagée, consacrée. C'est tellement beau, c'est tellement attrayant. En étant ensuite soi-même des citoyens modèles. Oui, nous sommes citoyens des cieux, clairement, mais j'ai aussi un passeport canadien qui dit que je suis un citoyen canadien. Et j'ai des droits et des privilèges. J'ai une place, j'ai un rôle, j'ai une influence. Des chrétiens qui vont illustrer les vertus chrétienne. Des chrétiens qui vont manifester le fruit de l'Esprit, qui démontrent de l'humilité, de la grâce et l'amour de Jésus-Christ dans toutes leurs relations, qui se montrent intègres et justes dans leurs agissements, qui cherchent le bien du plus grand nombre, vont contribuer à créer une société beaucoup plus compatissante, généreuse, juste, et tout le monde va en sortir gagnant. Voici comment Paul le dit en 1 Corinthiens 10, versets 32 et 33, il dit ceci, « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » La vision de Paul était claire. Son rôle, sa place, son appel était clair. Est-ce que ça l'est pour nous qui sommes ici aujourd'hui? Et cela va inclure une autre dimension de notre vie que peut-être on n'en parle pas suffisamment, mais qui mérite toute l'attention parce que la Bible en donne beaucoup d'attention et Dieu s'intéresse à cette dimension de notre existence, notre vie professionnelle, notre travail. Faites un petit calcul rapide. Combien de temps passez-vous au travail versus le temps que vous passez à l'église? Vous passez peut-être 2 % de votre temps dans une semaine à l'église. Vous allez passer environ 40 % de votre temps sur votre milieu de travail, dans votre lieu de travail. Donc là, vous avez une influence durable dans le temps, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. C'est dans votre milieu de travail. Est-ce que votre travail reflète les valeurs de Christ? N'est-ce pas? Parce que l'apôtre Paul, en Colossiens, en Éphésiens, souligne à quel point notre vie professionnelle est importante à Dieu. J'ai non seulement un patron humain, mais j'ai aussi un patron divin. Et quand je travaille, je travaille pour Christ. Que je sois dentiste, fonctionnaire, éboueur, constructeur, qu'importe, ma vie professionnelle est très importante aux yeux du Seigneur. Parce qu'elle entre dans ce mandat culturel donné en Genèse 1 de gérer la création de Dieu. Et même ce travail-là, je vais rendre compte au Seigneur de la qualité de mon travail, de l'intégrité de mon effort. Nous travaillons pour le Seigneur et ensuite pour notre prochain. Et donc, un travail qui est bâclé, un travail, un service de piètre qualité envers son patron ou ses clients, déshonore son Seigneur et est un mauvais témoignage aussi. Alors, si je travaille par la puissance du Saint-Esprit, pour la gloire de Dieu et pour le bien de mon prochain. Et là, j'accomplis aussi la mission que le Seigneur me donne ici-bas, selon les dons, les talents, les connaissances et les expériences de vie qu'il m'a données, de briller là où le Seigneur m'envoie. Une autre façon de bénir et de travailler au bien de sa communauté, c'est en soutenant justement ce bien là où il est pratiqué. Galates 6 nous dit ceci, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, écrit Paul, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi, mais envers tous. On ne peut pas sauter ce bout-là. Il y a tellement de choses qu'on peut faire en tant qu'Église, n'est-ce pas, pour travailler au bien de sa communauté. Une friperie. Une banque alimentaire, cuisine collective, un frigo partage, une clinique d'impôts, chorale de Noël. Il y a tellement de moyens qui sont disponibles qui nous permettent de bénir et de communiquer l'amour de Christ. Je parle de clinique d'impôts. On a introduit cela à notre Église il y a 16 ans. Et cette année, nous avons servi, nous étions environ 6 personnes de notre communauté. Nous avons servi 492 personnes. très grande majorité des gens à l'extérieur de la communauté, mais littéralement, nous avons béni la veuve, l'étranger et l'orphelin. Littéralement, ce sont des gens à faible revenu qui bénéficiaient de ces services gratuits. Et c'est plus de 24 000 $ en services gratuits qui ont été offerts à notre communauté par une activité toute simple qui se fait pendant 2 mois. Prenez d'autres occasions comme ça de servir dans l'Église, mais aussi à l'extérieur. Il y a tellement d'organismes communautaires qui cherchent des bénévoles. On peut aussi servir et bénir sa communauté de ce moyen-là. Et statistiquement, c'est reconnu, les chrétiens sont parmi les citoyens qui offrent le plus de temps à leur communauté pour bénir. Donc oui, on a compris l'appel du Seigneur pour bénir sa communauté. En faisant le bien, et finalement, bien sûr, comme le dit Jérémie 29,7, en priant l'Éternel en faveur de sa ville. Même si dans son cas à lui, c'était Babylone, le siège du gouvernement Nebuchadnezzar, responsable de leur exil, priait pour la ville. Et quelques 660 ans plus tard, l'apôtre Paul dira ceci à son serviteur et collègue Timothée. En 1 Timothée 2:1, il dit « J'exhorte donc, avant toute chose, notez la priorité de ce qu'il va dire ici, ce qui est important pour lui, pour l'Église. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Voyez les liens qui sont là de prier pour tous les hommes, pour ceux qui sont enlevés en dignité. Pourquoi? Bien, en demandant au Seigneur de les soutenir, de diriger leur cœur, qu'ils soient de bons administrateurs, de bons législateurs, qu'ils passent des bonnes lois qui vont contribuer quoi? À la sécurité, une vie paisible et tranquille et une prospérité générale. Mais aussi, dans la suite de sa requête, on le comprend aussi de prier pour le salut de ces personnes, car Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Alors, vous savez, c'est facile de souligner les gaffes de nos politiciens, de nos dirigeants, surtout si on n'a pas voté pour eux. Hein? Mais quel discours tient-on? Est-ce que c'est seulement un discours de critique, un discours négatif? Nos autorités politiques, oh, peut-être nos autorités spirituelles, je ne sais pas. Hein? Nos enfants qui nous entendent parler, d'eux, qu'est-ce qu'ils entendent? Est-ce qu'on est une bénédiction? Est-ce qu'on est un exemple dans notre discours? Ou est-ce qu'on bénit? Est-ce qu'on bénit? Ces questions-là sont importantes parce que leur impact est grand. Et rappelons-nous que même nos dirigeants, nos fonctionnaires, n'est-ce pas, nos gouverneurs, selon Romains 13, lorsque Paul parle d'eux, il les appelle en grec des diakonoi, traduit en français par diacre, des serviteurs. Même les hauts fonctionnaires, même nos dirigeants, sans qu'ils le réalisent, sont des serviteurs de Dieu, en espérant qu'ils maintiennent l'ordre et la sécurité de leur lieu de vie. Et donc, si l'Église vit ces choses, si l'Église comprend cette mission de briller dans sa communauté, de rechercher le bien de sa ville au nom de Jésus-Christ, les résultats sont les suivants selon Jérémie. Une forme de prospérité va se créer. Prospérité peut-être matérielle à travers des lois justes, une sécurité qui permet une croissance, mais aussi une prospérité morale, éthique et spirituelle à travers l'exemple que nous donnons à nos prochains. Cette prospérité va aussi produire une vie paisible et tranquille, comme Paul le dit en 1 Timothée 2. Sur nous, va contribuer, on l'espère, au salut de notre prochain, de nos autorités. Mais comme Paul le mentionne aussi, il y aura un impact sur Dieu. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. On fait plaisir à Dieu, notre Seigneur, lorsqu'on vit de cette manière-là. Et Paul dira à Tite, un autre impact de telle vie, nous allons rendre attrayante l'enseignement de notre Dieu. En Tite 2, verset 10. Et on pourrait multiplier ces exemples, mais on s'arrête ici. Vous avez, je crois, une bonne idée. Au-delà des grands enjeux éthiques et moraux, cette lettre de Jérémie aux exilés de Babylone nous montre des façons qui sont simples, en quelque sorte, et qui est à la portée de chacun d'entre nous de faire cette différence, de contribuer au bien-être de notre prochain, d'aimer notre prochain comme on aime le Seigneur, et de voir une communauté, on l'espère, transformée par des témoins de Jésus-Christ et par la parole de Dieu. Que le Seigneur vous aide. Une belle tâche, hein? Une noble tâche, une glorieuse tâche qui vont donner des fruits jusque dans l'éternité. Prions. Bien, Seigneur, merci encore pour ces moments avec mes frères et mes sœurs ici à Edmundston. Merci pour ton action, pour ton esprit qui agit, qui dirige, qui renouvelle, pour ta parole qui nous donne une direction claire sur notre vie et qui nous rappelle que nous avons un impact, nous avons une influence. Nous sommes remplis d'une puissance plus grande que tout ce qui se trouve dans le cosmos, ton Esprit Saint, qui nous renouvelle au contact de ta parole, au contact de ton peuple, qui nous renouvelle et qui nous dirige dans des voies de vie, de sainteté, de puissance, de joie et de paix. Seigneur, les défis sont là, on est conscients. Et merci parce qu'on n'est pas seul pour y faire face. On peut les vivre ensemble et avec toi. Merci de diriger, Seigneur, encore ce peuple. Merci de le bénir, de garder ta bonne main sur chacun de ses membres et de contribuer à la prospérité de ton Église à Edmundston. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.